RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Ah, un petit Pink Floyd comme ça, 7h32, ça fait du bien. Money, alors pourquoi? Pourquoi Money? On aurait pu vous mettre à bas aussi, hein, Paul. Mais parce que nous allons justement parler d'argent, les opportunités fiscales et financières, immobilières, à ne pas manquer avant la fin de cette année 2018, et puis même... Enfin, les compétences de notre invité qu'on va vous présenter dans un instant vont bien au-delà. Hein. Vous imaginez peut-être pour l'année 2019 acheter un terrain, construire une maison, faire un crédit. Eh bien, toutes vos questions sur ce sujet, c'est voilà. Dès maintenant au 3216 via l'appli RMC Direct Studio.
Nous sommes avec Didier Laporte, de oui. Laporte.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour, je suis spécialiste. Hein, pour les noms.
Je salue.
Oui, c'est vrai.
Donc, vous êtes responsable marketing et communication de CAFPI. C'est
oui,
quoi CAFPI?
Je le fus. Je représente le courtier CAFPI. Oui. J'ai eu plusieurs fonctions. Ça fait plus de 20 ans que j'œuvre au sein de cette superbe entreprise.
D'accord. Et ça n'a pas fermé, c'est que vous avez à peu près travaillé correctement, quoi.
Ah bah, a priori, oui.
On peut rappeler ce que c'est, la CAFPI? Oui.
Alors, c'est un en langage commun, si vous voulez, on appelle ça un courtier, un intermédiaire donc, oui. Courtier en prêt immobilier. La définition exacte, c'est intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Ça fait très très long, hein. Vous savez qu'on a beaucoup d'acronymes hein, dans beaucoup de domaines. Oui. Ça s'appelle IOBSP.
IOBSP. Donc,
vous êtes un peu un courtier, quoi, c'est ça?
C'est complètement ça. Hein. En D'accord. fait, dans le langage courant, on appelle ça un courtier. C'est l'intermédiaire entre, pour les prêts immobiliers, entre le prêteur et l'emprunteur.
On vient vous voir et vous allez, alors vous nous écoutez, vous prenez tous les chiffres, etc. Et puis après, vous allez faire votre marché, essayer de nous trouver le meilleur... La meilleure affaire, en fait, c'est ça?
C'est exact. On va aller chercher soit une solution à caractère tout à fait performante, hein, quasiment comme les traders en stock picking. On va aller chercher la meilleure hypothèse, le taux le plus attractif pour vous.
Ouais, mais en ce moment, il y a vraiment des différences. On est autour de quoi? D'un et demi, non?
Il existe des différences en fonction, comme l'on dit, du profil de l'emprunteur, de votre projet. Hein. Oui. Il y a des projets qu'on finance à 100%, on va peut-être tout à l'heure
parler... Si j'ai 92 ans, ça va être un peu difficile, non?
L'âge terme aujourd'hui, on peut emprunter jusqu'à l'âge de 80, on peut emprunter l'âge terme pour terminer un prêt immobilier, aujourd'hui c'est environ jusqu'à 80 ou 85 ans. Vous savez que la durée de vie rallonge.
Et oui, bien sûr.
De ce fait, les prêteurs, les établissements prêteurs, ont pris en considération ce genre de choses, et notamment les assureurs, hein.
Oui,
parce qu'il faut généralement quand on emprunte, il faut s'assurer. Hein.
Oui, c'est l'assureur en fait qui est le plus, on va dire, il a un rôle très très important dans les crédits immobiliers hein, aujourd'hui.
Ah ben, il a un rôle particulièrement important. D'ailleurs, il est important pour vous-même, pour l'emprunteur, dans le sens où si vous êtes assuré, a priori, quand vous faites une opération immobilière et qu'elle est financée, dès lors que vous êtes assuré, si vous arrive malheureusement quelque chose, eh bien, le patrimoine ne peut plus échapper à vos ayants droit.
Évidemment.
Vos héritiers, bon. On n'est pas dans cette hypothèse. Généralement, quand on emprunte, on est plutôt jeune, on se projette dans l'avenir. Mais cependant, il faut y penser, et c'est toujours plus intéressant de savoir qu'on est correctement protégé. Alors, les assureurs demandent à ce qu'on soit assuré pour le décès, puis différentes autres formes.
Le chômage
problématique. Aussi. Alors le chômage c'est pas la panacée parce que les assureurs font pas beaucoup d'efforts sur ce registre.
Ah, évidemment, ça coûte très cher.
Alors on va d'abord parler, on va pouvoir développer tout cela aussi, mais je vous ai fait venir parce que je sais que vous êtes aussi un spécialiste de la question sur les. Est-ce qu'il y a des opportunités fiscales et financières immobilières à saisir avant le 31 décembre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a véritablement des placements, on va essayer d'un petit peu aussi de décortiquer tout ça parce qu'il y a tellement, moi j'en ai listé déjà presque une dizaine, j'imagine qu'il y en a plus. Donc est-ce qu'il y a véritablement des choses qui vont complètement changer ou être supprimées comme avantage au 31 décembre?
Alors Christian, je vais répondre aux auditeurs. Alors sur la première partie, alors est-ce qu'il est encore temps? Il est toujours temps de prendre en charge une situation, mais sachez que pour prendre date fiscale, si vous réalisez l'opération, de quelque nature qu'elle soit, c'est avant la fin de l'année. Donc si elle est assortie au financement d'un projet, il y a quand même des délais incompressibles. Hein. Il faut quand même que un projet qui doit être financé doit être étudié. Ensuite, si vous bénéficiez d'une offre de prêt, eh bien il faudra
là,
attendre...
Là, vous parlez des prêts, vraiment.
Ouais.
Mais moi, je vous parlais là...
Des dispositifs.
Des dispositifs. C'est-à-dire, par exemple, la loi Pinel. Est-ce que la loi Pinel va changer La
loi Pinel va connaître son terme en 2022, mais là pour l'instant rien n'est changé. On l'a juste recadré, recentré. Enfin, le gouvernement, le ministère de la Cohésion et des Territoires a fait quelques modifications.
Alors c'est quoi la loi Pinel d'abord?
Alors la loi Pinel, c'est un dispositif qui vous permet d'acquérir un bien immobilier neuf en VFA généralement. VFA, si c'est un acronyme, c'est vente en l'état futur d'achèvement.
C'est ça. C'est sur plan quoi.
C'est sur plan.
Donc là, il va peut-être être un peu tard pour. Si je fais du Pinel tout de suite, que l'immeuble est construit dans 10 mois.
Ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut, c'est si vous voulez prendre date fiscale pour bénéficier de l'avantage fiscal, il faut avoir signé votre acquisition avant la fin de l'année, parce qu'en fait on va le calculer dans le temps. Si le bien est livré dans 12 ou 24 mois, ça n'a pas grande importance.
D'accord.
Donc
pas que ce soit trop en retard non plus.
Non, ce que je voulais dire pour nos auditeurs, c'est que si vous voulez faire d'opérations maintenant, et généralement ces opérations là se financent, d'accord, parce que d'ailleurs les banques sont enclines à les financer jusqu'à 110%. On peut le faire sans apport, sans fonds propres, sans mobilisation de fonds propres.
Ah oui.
Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut quand même présenter son projet, qu'il soit étudié, et ensuite vous bénéficierez d'une offre de prêt, on vous prêtera les fonds, mais il y a quand même le fameux délai Scrivener. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre, si vous ajoutez l'ensemble de ces
14
journées...
Jours, voilà, c'est 14 jours,
voilà, il faut,
c'est,
voilà,
de façon.
11. D'accord. Et si vous prenez une petite semaine pour faire l'étude dossier, vous assurez, bon, c'est pas très long aujourd'hui pour s'assurer si les capitaux sont pas trop importants, il vous faut à peine quelques jours parce que le parcours est numérique, hein, donc ça peut aller, ma foi, assez vite. Mm-hmm. Autrement dit, un exemple précis, hein, là j'ai les clients qui signent entre le 21 et le 29 décembre, d'accord? Sur une opération, notamment en Pinel. En Pinel, ça consiste en quoi? Vous achetez ce bien, il va falloir vous engager à le louer, d'accord?
Oui.
Soit 6 ans, soit 9 ans, soit 12 ans, d'accord?
C'est un contrat qu'on passe avec l'État?
Complètement.
6, 9, 12.
C'est une obligation, c'est la contrepartie, hein, c'est-à-dire qu'on va vous offrir une réduction d'impôt, mais cependant, il faut s'engager à louer, d'accord?
Et la réduction d'impôt, elle est où? Parce que ça...
Allez où? Comment? En fait, c'est un pourcentage du montant de l'investissement, d'accord? C'est-à-dire que entre 12, 18 ou 21% suivant la durée sur laquelle vous allez choisir de louer.
Alors, on prend un exemple concret.
200 000 euros.
Oui.
24 000 euros de réduction d'impôt, d'accord?
Ah oui.
4 000 euros par an, d'accord?
Voilà. Ah oui, c'est quand même pas...
C'est assez sympathique.
Et on peut, j'ai vu qu'on pouvait louer ses ascendants ou descendants. Hein.
Alors ça a été modifié. Il faut que le membre de la famille ne soit pas rattaché au même foyer fiscal.
Oui,
d'accord.
Bien sûr. Mais donc à partir de là, ce que j'essaie de bien essayer de décortiquer le truc, ça veut dire que je vais donc déduire, c'est pas de mes revenus. Je vais déduire.
C'est une réduction
d'impôt.
D'accord.
C'est un peu comme un crédit d'impôt, quoi. On appelle ça.
Exactement.
Moi,
exactement.
Je préfère la notion de réduction d'impôt. Mais alors, il y a quantité d'autres dispositifs. J'ai vu la loi Malraux. Je crois que c'est historique puisque ça remonte à Malraux. C'est quoi la loi Malraux?
Alors, Christian, vous m'avez contraint en m'invitant à faire quelques recherches historiques. Hein.
Il faut lire. Et, vous avez ressorti vos vieux livres.
Bah oui, c'est une des plus vieilles
dispositions fiscales.
Voilà, elle date de 1962. Mais j'en ai trouvé encore une qui est un peu antérieure. C'est en 1960. Bon, ça nous rajeunit pas. Hein, mais cependant. C'est pas si nouveau que ça, en fait. Les dispositifs dits incitatifs ont vraiment existé depuis de longues années.
Donc le Malraux.
Alors, on va y aller, le Malraux. Alors là, vous allez investir dans un bâtiment réputé historique. Donc vous aurez là aussi une réduction d'impôt qui sera de l'ordre de 30%. Alors là, la problématique, c'est de s'attacher à faire de la rénovation de biens patrimoniaux dans des centres historiques de ville. On va les réhabiliter. Oui, et ensuite, il faut aussi s'engager à louer. Alors, vous devrez louer pendant 9 ans, d'accord?
Et il n'y a pas de limitation du loyer. C'est pas
voilà, là, le loyer est libre. Entendons-nous bien. Il faut aussi pratiquer des loyers qui soient des loyers de marché. Hein.
Oui, autrement, on ne l'aura pas. Bien sûr.
Alors, généralement, ce sont sur des sites sites patrimoniaux remarquables qui ont été identifiés.
Place des Vosges, par exemple.
Par exemple. Oui. Hein, ça en fait partie.
Un exemple concret.
D'accord. Mmh. Alors, il y a plusieurs catégories. Première catégorie, deuxième catégorie, ce qui va déterminer le montant de la réduction maximale auquel vous allez pouvoir prétendre. D'accord. Donc alors on fait de la valorisation de ce patrimoine, on le renouvelle vous devrez le louer 9 ans et là c'est très encadré comme système, hein, parce qu'il y a l'architecte des bâtiments de France et il faut une autorisation préfectorale. Enfin bon, ça on pourra y revenir.
Si et donc c'est quoi, c'est l'investissement sur les travaux ou sur l'acquisition?
Sur les travaux.
Sur les travaux.
Alors il y a une partie en foncier, une partie en travaux, d'accord. Et ce sont ces travaux que vous allez pouvoir déduire. Alors un point particulier.
Rapidement, et après on revient.
Il n'y a pas de plafond en termes de niche fiscale. C'est vrai que les niches fiscales sont réputées comme étant plafonnées, eh bien celle-ci ne l'est pas.
D'accord.
Eh oui.
7h42, on revient dans un instant. On va peut-être aussi s'intéresser. Qu'est-ce qui va se passer en 2019? Est-ce que toutes ces lois, les lois Pinel et tout ça continue ou pas?
Mais oui,
Christian,
bonne question.
Voilà. Est-ce qu'on a déjà des informations?
Je crois.
Le 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions sur ce sujet. On va parler aussi de financement de votre future maison, hein. Si vous voulez contracter un crédit, que vous voulez quelques conseils, c'est le moment ou jamais. On a notre expert spécialiste qui est là. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Voilà le retour du week-end des experts, la maison, et ce matin en compagnie de Didier Laporte, on évoque eh bien toutes les opportunités pour essayer de payer un tout petit peu moins d'impôts, hein, si on en paye,
bien sûr.
Avec, on va dire, toutes ces mesures fiscales, hein, que vous connaissez, les lois Pinel, etc. Avec notre invité Didier Laporte, qui est responsable marketing et communication de la CAFPI, qui est un courtier en crédit, on peut dire ça comme ça. Christian,
oui.
On évoquait tout à l'heure alors donc toutes ces différentes mesures, mais il faut peut-être aussi évoquer quand ça se passe mal, parce que de temps en temps, ces systèmes de défiscalisation peuvent rencontrer des problèmes.
Eh oui, on parle par exemple de la loi Pinel, mais si je trouve pas de locataire, si le locataire me laisse tomber, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, on peut parler d'expériences plus ou moins douloureuses. Il y a, je me souviens de cas qui sont, ma foi, assez rares, autant de reconnaître, mais où des constructions ont été réalisées dans des lieux qui étaient un peu isolés. Hein. Donc, oui. En fait, la première règle, c'est l'emplacement. Hein. Il faut trouver un emplacement. Faut bien observer où est-ce que vous allez investir, le cas échéant, même se rendre sur place pour voir s'il y a des écoles, des commerces, tous les services.
Parce qu'il y a eu des promoteurs qui ont saisi l'aubaine et qui ont fait des immeubles un peu partout où on n'en avait pas besoin.
Alors,
en fait.
Je conseille une chose, c'est de bien aller voir le PLU, plan local d'urbanisme, qui vous donne.
On va où pour voir ce truc-là?
À la mairie, tout simplement. À la mairie, service de l'urbanisme, et qui est aussi un schéma prospectif. C'est-à-dire, ça vous dit dans 10, dans 20 ans, ce qui va se passer dans le quartier. Alors, vous pouvez imaginer une ligne de TGV qui va passer à côté de votre immeuble. C'est le pire.
Ça peut provoquer une forme de nuisance.
Mais d'un autre côté, ça va aussi vous donner, par exemple, dans l'autre sens, le développement des infrastructures. C'est mieux d'être pas loin d'un échangeur, il va y avoir un lycée, etc. Donc, le PLU, moi, je dis, c'est la première des choses à faire.
Alors, pour contrecarrer les risques, alors il existe aujourd'hui pour les investisseurs, les compagnies d'assurance qui fournissent des contrats pour le risque de loyers impayés, pour la carence locative.
Ça coûte cher, ça.
Pas tant que ça, mais je pense que c'est une bonne protection.
Mais c'est limité dans le temps. On ne sait pas, si vous avez un locataire qui ne paye pas, au bout de 3 ans, l'assurance vous dit, écoutez, moi j'y peux plus rien là. Hein.
Évidemment.
Voilà. Évidemment. Je vous fais avouer.
Je n'ai rien à avouer, je ne suis pas assureur. Cependant, c'est toujours mieux d'être protégé.
On a Grégory avec nous au 3216, messieurs. Bonjour Grégory.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bienvenue.
Ça fait plaisir de vous avoir.
Vous êtes dans le Morbihan, Grégory.
C'est ça.
Et on vous écoute.
Donc du coup, moi, je vous appelais. Donc j'ai une idée un petit peu farfelue, mais bon, ça pourrait le faire. Parce que bon, ils me font rire un peu l'État à vouloir prêter des primes, à donner des primes et tout pour améliorer nos habitats, tout ça. Mais bon, on a plus d'argent.
Ouais.
Et c'est là que je pense que les banques pourraient prendre le relais, justement.
Alors, explique. Quelle est votre idée?
Je m'explique. Donc du coup, par exemple, moi, j'ai emprunté, comme je pense beaucoup de personnes, sur 25 ans sur ma maison.
Oui.
Donc j'ai fait mes travaux, donc c'est une maison des années 70, hein. J'ai fait pas mal de travaux, isolation, tout ça.
Donc vous avez emprunté sur 25 ans pour la rénover, cette maison, c'est ça?
Ouais, la rénover, mais complètement, électricité et tout. Donc
d'accord.
J'ai pas pu non plus tout faire.
Oui.
Donc tu vois, il me manque la toiture, je pourrais mettre un poêle à granules, bon, des trucs quoi.
Oui.
Et ce qui serait intéressant de faire, par exemple, c'est de, par exemple, j'ai remboursé, ça fait 5 ans que j'ai commencé à rembourser mon crédit.
Donc vous avez remboursé les intérêts, hein, pour l'instant, hein.
Enfin, voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais bon, si la banque pouvait nous autoriser sur les intérêts et ce qu'on a quand même remboursé un petit peu sur la maison, de faire un reset sur le crédit, c'est-à-dire de revenir à zéro, voilà, qu'on reparte sur 25 ans avec des frais de dossier, bien sûr, il faut bien que je mange aussi, mais à taux zéro.
Pourquoi à taux zéro, la banque le ferait à taux zéro?
Parce qu'on aurait déjà payé les intérêts, en fait. C'est ce que nous dit Grégory.
Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, c'est que tout le monde mette la main à la pâte pour que ça soit écologique, quoi, surtout, quoi.
Ouais.
Le prêt à taux zéro, il existe déjà, hein.
Bon. Non, mais en fait, si vous voulez, si on emprunte sur 25 ans, on est endetté à mort, on peut plus rien faire.
Ouais. Non, voilà, mais je comprends, mais je suis pas sûr que les banquiers soient tout à fait d'accord.
Je vous explique un truc, c'est quand les banques ont eu besoin de nous à l'époque, quand elles étaient dans le caca, on les a aidés à hauteur de 2000 milliards d'euros. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi les faire participer à tout ça.
Ouais. Bon, vous avez mis un gilet jaune, vous, ce matin, hein?
Non, même pas. Oui et non.
Didier Laporte.
Une autre petite truc autrement. Oui. Je pensais sur toutes les nouvelles constructions qui sortent de terre. Mm-hmm. Pourquoi pas partir sur des maisons à toit plat avec toit végétal? Ça éviterait déjà de sortir de l'ardoise, donc des énergies fossiles de nos terres.
Ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus beaucoup, l'ardoise.
Oui, non, mais tout à fait. Ben justement, ouais. Peut-être regarder un peu.
Ouais. Mais enfin, il faudra mettre quand même quelque chose, hein. Et le quelque chose, ça s'appelle de l'étanchéité. Et l'étanchéité, c'est pas plus vertueux que de l'ardoise. Ça l'est même beaucoup moins parce que c'est que des produits pétroliers.
Non, mais c'est vrai, hein, que c'est écolo. Si on a un toit végétalisé, c'est pas mal. Oui. Non, et puis en plus, c'est joli.
Mais d'accord. Oui. Mais vous le voyez pas quand il est plein, hein.
Bon, Didier, l'idée de Grégory, ça vous paraît quoi? Farfelu? Faisable? Vous connaissez les banquiers? Vous pouvez discuter un petit peu avec eux?
J'apprécie son idée, c'est bien d'avoir des idées, c'est toujours constructif, hein. Cependant, il faut rappeler une chose, c'est que le métier de banquier, c'est une industrie, hein, de prêter de l'argent, hein, d'accord. Ouais. Alors, ce qui est à observer aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt sur les durées longues sont ma foi tout à fait attractifs, hein. Aujourd'hui, on peut emprunter de l'argent à 25 ans au taux d'intérêt moyen de 1,50, 1,60. C'est inférieur au taux de l'inflation, demeurant. Donc, ça veut dire que si on le calcule comme ça, en déflatant avec l'inflation, vous êtes quasiment en taux négatif. Donc, c'est à votre avantage. Bon, tout ça pour dire que une banque va emprunter de l'argent sur des marchés ou auprès de la banque centrale, va le remettre dans l'économie. Mais ça a un coût, hein, d'accord. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui vous reçoivent. Il faut bien que cette industrie bancaire gagne un peu d'argent.
Alors, d'autres leviers de croissance aussi, hein, les frais sur les comptes courants, enfin les tous ces trucs là. Hein.
Mais de toute façon, c'est ni plus ni moins que de la renégociation de prêts. Ça existe. Et alors, puis de prolonger le délai aussi.
Ouais. Je ne me souviens pas du prénom de l'auditeur.
Grégory.
Alors moi, ce que je vous suggère, c'est justement de consulter, d'aller voir de quelle manière vous pouvez optimiser votre situation, parce que je pense que là vous êtes sur une phase un peu charnière, quelques années d'amortissement, il faut peut-être revoir un petit peu le sujet, et puis de quelle manière on peut y trouver une solution. Mais en tout cas, volontiers, nous pourrions y répondre.
Est-ce qu'on s'attend à ce que les taux remontent ou pas?
Pas dans l'immédiat, non.
Pas dans l'immédiat, d'accord, ok.